RCF.
Il y a 100 ans avait lieu le congrès de Tours, un moment historique dans l'histoire du Parti communiste français. Et à l'occasion de cet anniversaire, un livre paraît chez Armand Collin intitulé « Le Parti Rouge, une histoire du PCF 1920-2020 ». Trois auteurs ont travaillé sur cet ouvrage, Jean Vigreux, Serge Volikov et vous-même, Roger Martelly, bonjour.
Bonjour.
C'est donc à l'occasion de ce 100e anniversaire que tous les trois vous avez eu envie de consacrer un ouvrage pour évoquer l'histoire du Parti communiste français.
Oui, bien entendu. Un siècle d'existence, c'est l'occasion évidemment de faire le point. Beaucoup de travaux ont été accumulés, très souvent polémiques, soit écrits par des adversaires du Parti communiste, soit au contraire par des partisans de ce parti. Aujourd'hui, la situation est un peu plus apaisée. On va dire que l'histoire du Parti communiste est laïcisée, elle fait l'objet de moins de polémiques. Le temps est venu d'une réflexion pour comprendre ce qui explique la forte implantation de ce phénomène communiste dans la société française, mais aussi de comprendre pourquoi ce parti, qui a été pendant quelques décennies le premier parti de gauche, a connu un déclin qui le vaut aujourd'hui aux marges de la vie politique.
Donc l'histoire du Parti communiste telle qu'elle est retracée dans ce livre, ce sont effectivement les heures de gloire, puis le déclin du communisme en France, ou en tout cas du Parti communiste.
Voilà.
Est-ce qu'on peut considérer que cette histoire constitue une histoire singulière ?
C'est une histoire singulière, bien entendu, qui s'inscrit en même temps dans une histoire beaucoup plus vaste, qui remonte très loin dans le temps, qui remonte au vieux combat pour l'égalité, pour la mise en commun, pour le partage, qui était le propre des communautés rurales et urbaines d'autrefois. Mais ce combat, à partir de la fin du XVIIIe siècle, entre en politique, avec en particulier le personnage de Babeuf, Gracchus Babeuf, qui est considéré comme le premier communiste, d'une certaine manière, le premier communiste stricto sensu de l'histoire de ce vaste courant. Au XIXe, il faut aussi savoir que le communisme s'intègre dans la vaste histoire du mouvement ouvrier. L'idée communiste se raccorde au combat de ce mouvement ouvrier naissant, elle prend la forme pendant un moment de grandes utopies, puis elle se fait une doctrine globale qui brasse à la fois de l'économique, du social et du politique, avec Karl Marx notamment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute une période, notamment à la fin du XIXe siècle, le communisme et le socialisme se recoupent. On ne fait pas véritablement la distinction entre les deux. Tous ceux qui se réclament du communisme ou du socialisme ont pour horizon la mise en commun, c'est ce qui est au cœur du terme, et considèrent que pour y parvenir, il faut s'attendre à un long processus de lutte sociale et d'alliance avec d'autres forces que les communistes stricto sensu.
La suite de l'histoire, Véronique Elzieux.
Quand vous parlez, Roger Martelly, de mise en commun, il s'agit de mise en commun des biens.
C'est plus généralement la mise en commun des biens, la mise en commun des pratiques, des activités. Au fond, la nécessité de constituer une communauté d'habitants qui puisse vivre dans la concorde et disposer des ressources nécessaires à la survie des individus et à la survie de la communauté. Ça, c'est le terme le plus général. Communisme devient une doctrine politique à partir du XIXe siècle. Pendant longtemps, ça se confond un peu. Communisme, socialisme, c'est la même chose. Sauf que, à partir de la guerre, de la Première Guerre mondiale, va se faire la distinction entre les communistes et les socialistes.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que en 1914, le mouvement socialiste européen, l'international socialiste, décide de s'engager dans la guerre. Chaque parti socialiste s'engage aux côtés, j'allais dire, de ses gouvernements. Seules des petites minorités refusent cette intégration dans le conflit, maintient le vieil horizon internationalistes et pacifiques des petites minorités. Et parmi ces minorités, il y en a une qui est le petit parti des bolcheviks russes, avec à sa tête un homme que l'on connaît peu à l'époque et qui s'appelle Vladimir Lénine. Or, il se trouve qu'en 1917, ce petit parti qui a refusé la guerre réussit en Russie ce que n'avaient pas réussi les gros bataillons du socialisme allemand, français et britannique, c'est-à-dire une révolution ouvrière. Et à partir de cette révolution russe, il y a une bifurcation qui s'opère. D'autant plus qu'en 1919, les bolcheviks russes, avec Lénine, décident de constituer une nouvelle internationale qui prend le nom d'internationale communiste. Elle s'appelait socialiste avant-guerre, elle s'appelle communiste désormais. Et dans tout le mouvement socialiste, fait un choix. Il y a ceux qui choisissent l'exemple de Moscou, qui vont rejoindre l'international communiste. Il y a ceux qui ne veulent pas de l'exemple de Moscou, qui préfèrent à l'époque l'exemple de Londres et du travaillisme britannique, et qui vont maintenir l'étiquette de socialiste.
Est-ce que la France, Roger Martelly, fait le choix du communisme tel qu'il est vécu en Russie, tel qu'il
oui,
est
et,
mis
et...
en pratique là-bas?
Et c'est une exception d'ailleurs, hein, parce qu'en règle générale, dans tout le continent européen, ce sont des petites minorités socialistes ou syndicalistes qui choisissent le modèle de Moscou. Ce sont des petites minorités.
Pourquoi voilà, la France fait ce choix?
Il y a des tas de raisons hein, qui expliquent ce choix, qui sont propres à l'histoire, j'allais dire, du socialisme français, du mouvement révolutionnaire. Mais il y a surtout le fait que dans le cas de la France, il y a le souvenir de la Grande Révolution française. D'une certaine façon, en choisissant l'exemple de Moscou, les socialistes français en majorité considèrent qu'ils continuent une histoire, cette histoire révolutionnaire qui naît du côté de 1789-1792, qui a été celle des sans-culottes, qui a été celle des jacobins, qui a été reprise dans les révolutions du 19e siècle, les révolutions de 1830-1848, de la Commune de Paris surtout. Tout cela constitue une sorte de soubassement affectif qui va nourrir le désir pour les socialistes français de retrouver une fibre révolutionnaire qu'ils ont l'impression d'avoir perdue pendant la période de la guerre avec la participation à ce qu'on appelait l'Union sacrée. C'est pour l'essentiel cette fibre-là, ce sens de l'histoire révolutionnaire française qui fait qu'en France, c'est une majorité qui décide d'adhérer à l'international communiste. Ceux qui ne le veulent pas maintiennent le Parti socialiste. Ceux qui le veulent vont s'appeler à partir de 1921 Parti communiste, alors que les communistes formaient une organisation unique avant 1914. À partir de 1921, les communistes et les socialistes constituent des partis séparés. Ils le sont toujours aujourd'hui.
Tant pis si la lutte est cruelle, après la pluie, le temps est beau. Prenez garde, prenez garde pour les sabreurs, les bourgeois, les cadets. La jeune garde, la jeune garde qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres de faim. C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre tous les coquins. Prenez garde.
Roger Martelly, comment est-ce que le communisme s'implante en France? Est-ce que ce sont des Français qui l'importent ou bien ce sont des Russes qui viennent en France et qui l'implantent?
Les deux. Le Parti communiste devient en décembre 1920 une section française de l'international communiste, qui prend le nom de Parti communiste en 1921. En même temps, ce parti donc qui se réclame de la révolution russe, qui accepte les règles très contraignantes d'une organisation internationale, s'avère capable, notamment dès la période de l'entre-deux-guerres, de devenir un parti enraciné, socialement enraciné dans le monde ouvrier, par l'intermédiaire de ses activités, par l'intermédiaire aussi de l'activité syndicale de ses membres, et qui s'insère, surtout à partir des années 30, sur le plan politique, dans ce qu'on appelle la gauche française. Dans un premier temps, dans les premières années de son existence, le Parti communiste boude un peu ce que l'on appelle la tradition de la gauche française. À partir de 1934, il décide d'être à la fois un parti original, communiste, et en même temps, il fait de l'union des forces démocratiques, on appellera ça plus tard l'union de la gauche, un principe cardinal de son action.
Pour terminer, j'aimerais que vous citiez quelques noms de ces Français qui ont contribué à l'implantation du communisme en France au début des années 20.
Le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui qui pèse lourdement pour l'adhésion à l'Internationale communiste, qui est Marcel Cachin, qui est un vieux du socialisme français, qui a participé à la création du Parti Socialiste Unitaire en 1905 avec Jaurès et avec Guède, Marcel Cachin. La seconde figure qui s'impose dès le milieu des années 20 et qui va dominer l'histoire du communisme français jusqu'à sa mort en 1964, c'est Maurice Thorez, un ouvrier venu des mines, qui va devenir la grande personnalité qui va contribuer à faire du Parti communiste, qui est un tout petit parti, qui est un parti encore minoritaire et marginal dans l'histoire française, un grand parti de masse qui va marquer l'histoire de monde ouvrier et l'histoire de la gauche française.
Jean Vigreux, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie des trois auteurs qui ont consacré donc chez Armand Collin un livre à l'histoire du Parti communiste français. Ce Parti communiste, il est marqué par un événement dont on fête cette année le 100e anniversaire. C'est le congrès de Tours qui a eu lieu en décembre 1920. Racontez-nous l'histoire de ce congrès et pour commencer, les circonstances de sa tenue.
Alors sur les circonstances de la tenue, on peut le faire en plusieurs temps. D'abord le contexte international, il faut voir que ce congrès de la section française de l'Internationale ouvrière, qui était le parti socialiste que Jean Jaurès avait fondé en 1905 en réunissant toutes les familles socialistes.
La SFIO donc.
La SFIO donc, 15 ans avant le congrès de Tours, eh bien on est au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec l'effroyable sortie de guerre, puisqu'on découvre la mort de masse, on découvre les gueules cassées, on découvre tous les affres de la guerre. Et la SFIO connaît une crise, puisqu'on reproche à la base, chez les militants, l'union sacrée, hein, puisque au moment de l'assassinat de Jean Jaurès, le 31 juillet 1914, la SFIO rentre dans la logique de guerre, alors que jusqu'alors elle prônait la paix, hein, l'apôtre de la paix ayant été assassiné. On entre dans la logique de guerre. Et il y a cet héritage, en quelque sorte, qu'il faut bien prendre en considération et l'ombre portée du conflit. Les pacifistes étaient ultra minoritaires dans la SFIO au cours de la guerre, mais au lendemain de la guerre, ils deviennent majoritaires. Ils s'emparent du parti, avec en particulier la figure de Jean Longuet. Et l'une des premières choses qu'ils font en 1920, c'est de sortir de la Deuxième Internationale au congrès de Strasbourg, au début de l'année 1920.
Qu'est-ce que c'est la Deuxième Internationale ?
La Deuxième Internationale, c'était celle où la section française de l'Internationale ouvrière avait adhéré, hein, puisque c'était une section de cette Internationale ouvrière qui avait été fondée dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Donc ils décident d'en sortir.
Ils décident d'en sortir et ils essayent de trouver un chemin pour aller vers une autre internationale, puisque ce qui se joue à la sortie de guerre, en plus des enjeux entre union sacrée, pacifiste et tout cela, c'est la renaissance des internationales ouvrières, avec en 1919 Lénine qui fonde la troisième internationale, ou internationale communiste, ou encore Cominterne, hein, tout dépend comment on l'appelle. La deuxième internationale se recrée aussi en passant par Berne en Suisse, et majoritairement ce sont les Britanniques, le parti travailliste qui est membre de cette deuxième internationale, et puis il y a même une tentative à Vienne d'une union des partis socialistes qu'on appelle l'UPSAI, qui se veut un intermédiaire entre la deuxième et la troisième internationale. Dans cette logique de reconstruction de l'internationalisme, la SFIO choisi une voie médiane et se dit on n'adhère pas tout de suite à la troisième internationale, ce que demandait Lénine.
Avec des conditions très précises.
Alors les conditions,
exactement.
Oui. Oui, il y a 21 conditions qui ont été édictées en juillet 1920. Il s'agissait de faire le tri pour les bolcheviks entre les bons socialistes et les mauvais socialistes, ceux qui étaient révolutionnaires ou ceux qui avaient participé à l'Union sacrée, participé à la guerre et qui restaient peu révolutionnaires à leurs yeux. Donc il y a 21 conditions qui sont édictées au cours de l'été 1920 et assistaient à ce congrès pour la SFIO, deux délégués français, Marcel Cachin et Frossard, hein, les deux étant envoyés pour comprendre ce qui se passait et de fait acceptent là-bas les 21 conditions et reviennent en France enthousiasmés par ce qu'ils ont vu et vont défendre vaille que vaille les enjeux de cette adhésion et des 21 conditions.
Voilà. Mais dans quel cadre se tient ce congrès de Tours en décembre donc 1920. C'est un congrès exceptionnel.
C'est un congrès, on va dire, ordinaire hein, de la SFIO. Elle reçoit ses délégués, c'est-à-dire que ça se joue à la base, dans les sections, dans les fédérations. Et puis une fois que tous les débats ont eu lieu, eh bien, il y a le congrès national à Tours. Et ce congrès s'inscrit aussi dans les espoirs des révolutions russes. Hein. Si j'ai insisté sur la guerre, la sortie de guerre, il y a aussi le regard qu'ont la plupart des pays européens et même mondiaux, puisqu'on a un élan révolutionnaire ou au moins l'émergence de la question sociale au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et en particulier en France, on a des mouvements de grève très importants hein, entre 1919 et 1920. Alors, une grève qui touche tous les secteurs et en particulier celui des cheminots, où le gouvernement de bloc national, hein, faut jamais perdre de vue que les socialistes ont échoué aux élections législatives de 1919, alors qu'ils ont plus de voix qu'en 1913 et 1914, le mode de scrutin fait qu'ils ont moins de députés, et ça va encore, chez les militants, donner une certaine amertume et une désillusion par rapport au régime parlementaire. Donc on a une radicalité hein, qui se joue dans ces grèves, mais ces grèves sont matées lourdement et les cheminots sont révoqués. Hein. Il y a plus de 10 000 cheminots qui sont révoqués en 1920 et il ne faut jamais perdre de vue qu'ils ne seront amnistiés qu'en 1936 au moment du Front populaire.
Extrait du téléfilm Thérèse et Léon, réalisé par Claude Goretta avec Claude Rich dans le rôle de Léon Blum.
Chers camarades, je ne voterai pas pour l'adhésion à la Troisième Internationale, même si cette position est aujourd'hui majoritaire. Le communisme, c'est la subordination absolue au chef. La coexistence d'organismes officiels et d'appareils clandestins, c'est donc dans les faits le pouvoir réel à un comité occulte.
Alors Jean Vigreux, qu'est-ce qui se passe au cours de ce fameux congrès de Tours ?
Au cours de ce fameux congrès de Tours, on avait en lice, on peut dire, trois motions. La motion d'adhésion sans réserve, portée au début par le noyau dur communiste de Souvarine, Loriot, qui pendant la guerre avait mené la minorité pacifiste, auquel s'est adjoint Frossard et Cachin, Frossard étant le secrétaire général de la SFIO, donc celui qui tenait le parti, pour l'adhésion sans réserve.
Voilà, hein, l'adhésion donc, sans réserve aux fameuses 21 conditions.
Aux 21 hein. conditions, d'accord. Voilà. La deuxième motion, elle est portée par Jean Longuet, qui lui est pour une adhésion mais avec réserve, n'acceptant pas la totalité des 21 conditions, loin s'en faut. Et puis une troisième motion, la motion qu'on appelle de la résistance, celle qui refuse en fin de compte l'adhésion à la Troisième Internationale et dont l'un des leaders qui apparaît au moment du congrès est Léon Blum. C'est lui qui, avec son discours au congrès de Tours, va défendre la vieille maison, selon l'expression consacrée.
Quelle va être l'issue de ce congrès et de ces positions nettement différentes les unes des autres ?
Alors, l'issue, de toute façon, elle est connue à l'ouverture du congrès, puisque les fédérations ont déjà voté, que l'on reprenne les résultats dans le Populaire, hein, qui était un des journaux de la SFIO, ou dans l'Humanité, fondé par Jaurès. Quels que soient les journaux, on sait très bien que la majorité des 178 000 adhérents de la SFIO ont décidé à plus de 70% d'adhérer à la Troisième Internationale. Neuf fédérations ont donné 100% des mandats à la motion. Moi étant de Côte d'Or, eh bien la Côte d'Or a donné 100% des mandats à la motion Cachin-Frossard. 22 fédérations ont donné plus de 75% des mandats, dont la Seine, Seine inférieure, Seine-et-Marne et Seine-et-Oise, c'est-à-dire la région parisienne, on a beaucoup de militants. 33 autres fédérations ont donné entre 50% et 75%, dont le Nord et le Pas-de-Calais, qui sont aussi des régions militantes importantes, tout comme
donc,
les Bouches-du-Rhône.
L'adhésion complète l'emporte largement.
Ah oui, l'adhésion complète l'emporte largement, et on pourrait même encore ajouter, ça c'était connu depuis les travaux d'Annie Kriegel, qui avait fait sa thèse sur le sujet en 1964, il ne faut pas oublier, me semble-t-il aussi, les fédérations issues des sociétés coloniales ou de l'Empire colonial, avec en particulier Alger, Constantine, Oran, qui étaient les trois départements d'Algérie, mais également la Tunisie, qui vont donner majoritairement aussi l'adhésion à la Troisième Internationale. On a au total 74 fédérations sur 96 qui demandent cette adhésion directe.
Ils l'obtiennent. Qu'en est-il de ceux qui étaient contre ? Est-ce que la rupture est consommée à partir de ce moment-là ?
Alors, la rupture a été consommée et pas tout à fait consommée. Il y avait deux positions. Est-ce qu'il fallait accepter l'équipe à Jean Longuet ? Est-ce qu'il fallait accepter, en fin de compte, ceux qu'on appelait les centristes, entre l'aile droite de résistance et l'aile gauche, on va dire, d'adhésion sans réserve ? Les militants hésitent. Il y a des amitiés très fortes, il y a des liens très forts, mais c'est l'Internationale communiste qui va imposer la rupture par un télégramme, le télégramme de Zinoviev, et puis par un deuxième coup de théâtre dans le Congrès, la venue à la barbe de la police française de Clara Zetkin, la vieille militante social-démocrate de surcroît allemande. Vous imaginez une Allemande arrivée en France en 1920 dans un congrès socialiste, je mets des guillemets, c'était la Boche pour de nombreuses personnes, et qui vient, dans un discours d'une vingtaine, trentaine de minutes, marteler le fait qu'on ne peut pas accepter Longuet parce qu'il ne sait pas où il veut aller. Il était à une réunion de la Deuxième Internationale à Berne, ou au moins ses proches y étaient avec lui, et donc il faut choisir, et elle met vraiment le couperet entre les deux, et ceux qui étaient pour l'adhésion avec réserve vont se retrouver avec ceux de la résistance et vont fonder, au lendemain de la fin du congrès, puisque le congrès a lieu à la Noël, comme on disait, socialiste de l'époque, entre le 25 décembre et le 30 décembre, dans la soirée du 30 décembre et le 31 décembre au matin, ils refondent la SFIO maintenue et se retrouvent entre résistants et ceux qui étaient pour une adhésion avec réserve.
Est-ce que les dénominations changent à ce moment-là ?
Alors, pas totalement, parce que la SFIO majoritaire à la Troisième Internationale s'appelle Section Française de l'Internationale Ouvrière et Section Française de l'Internationale Communiste. C'est assez drôle, il y a une double appellation, Parti Socialiste SFIC. D'ailleurs, souvent, on retrouve ça sur les cartes et même les affiches encore en 1921. C'est un peu plus tard que le parti va prendre véritablement le nom de Parti Communiste. Mais au début, pendant quelques mois, il y a encore une double appellation.
En quoi est-ce que ce congrès de Tours de 1920, Jean Vigreux, est historique, au fond ?
Mais il est historique. D'abord parce qu'il s'agissait pour les militants socialistes de régénérer le socialisme après l'épreuve de la guerre. Il s'agissait de renouer peut-être avec le débat réforme ou révolution qui a hanté le socialisme au XIXe siècle. Et puis surtout, il est historique parce qu'il scinde la gauche française en deux pour un temps long, jusqu'à nos jours, même s'il reste plus grand-chose du Parti communiste électoralement, à peine 2,5% aux dernières élections, ça va marquer durablement les gauches françaises au XXe siècle qui seront divisées entre un parti socialiste et un parti communiste. Et ça va laisser des traces profondes entre les deux. Parfois des moments, bien sûr, de sectarisme entre les deux, d'opposition entre les deux, et à d'autres moments donnés, mais à des possibilités de rapprochement, d'unité, d'union, qui vont scander tout le XXe siècle.
Serge Volikov, vous faites partie des trois auteurs du livre consacré à l'histoire du PCF, un livre paru chez Armand Collin. J'aimerais que vous nous resituiez en quelques mots l'importance du congrès de Tours qui a lieu en 1920.
Il y a une importance nationale, il y a une importance européenne. L'importance nationale, c'est que le Parti socialiste créé en 1905, en 1920, il est traversé par un vaste débat qui va se solder, se conclure lors de ce congrès. Et lors de ce congrès, les deux tiers des adhérents et des fédérations du Parti socialiste, qui s'appelait la SFIO, la Section française de l'Internationale ouvrière, décident d'adhérer à la nouvelle internationale communiste, dite Troisième Internationale, créée à Moscou l'année précédente. Et il y a une partie des membres du parti lors du congrès, notamment à travers la personnalité de Léon Blum, qui déclare qu'ils veulent garder la vieille maison. Mais en même temps, la majorité du parti décide d'adhérer à la Troisième Internationale et donc, dans un premier temps, se considère à la fois comme socialiste et communiste. D'ailleurs, pendant plus d'un an, le parti va s'appeler Parti Socialiste, Section Française de l'Internationale Communiste. Finalement, on va avoir en France, à partir de ce moment-là, une division du mouvement ouvrier français sous sa forme politique et d'ailleurs sous sa forme syndicale. Il y aura à la fois le Parti Communiste, le Parti SFIO Socialiste, la CGT et la CGTU l'année suivante en 1921.
L'entre-deux-guerres, Serge Volikov, en France, est marqué par l'émergence du Front Populaire. Qu'est-ce que c'est que le Front Populaire ?
Alors, voilà, moins d'une quinzaine d'années après la scission de Tours, on voit se réunir les deux branches, en quelque sorte, du mouvement socialiste et du mouvement ouvrier qui s'étaient séparés au congrès de Tours. Le paradoxe, c'est que ce sont les communistes, en 1934, qui sont à l'initiative du Front Populaire, alors que, entre-temps, ils ont perdu beaucoup de leur influence. L'enthousiasme pour la révolution russe a diminué, surtout l'économie, la société française s'est relevée après la guerre, et entre-temps, donc, le Parti Socialiste était devenu beaucoup plus important que le Parti Communiste. Sauf que, en 1934, il y a deux crises qui se télescope, on les connaît bien ces crises. Il y a une crise économique majeure du capitalisme international avec le chômage, l'effondrement des prix et des salaires, une crise sociale majeure qui touche la France un peu plus tard qu'ailleurs, mais qui fait qu'en 1932-33, il y a des marges de chômeurs, etc.
Et puis l'autre événement,
la deuxième crise, oui, voilà, ben, c'est la crise politique provoqué par la victoire de Hitler en Allemagne. En 1933, Hitler réussit à prendre le pouvoir alors que la gauche allemande était la plus puissante d'Europe, mais la gauche allemande, socialiste et communiste, était profondément divisée. Et le choc de la victoire des nazis en France, ça a été de dire il faut en France tirer en quelque sorte les enseignements de ce qui s'est passé en Allemagne et s'unir. Au début de l'année 34, il y a des manifestations, des émeutes à Paris où la droite extrême droite est assez violente contre des scandales et c'est à l'issue de ces événements que les premières manifestations unitaires communistes et socialistes se produisent en février 1934.
Et c'est de là que naît le Front Populaire ?
Et voilà, tout à fait. Quelques mois plus tard, le Parti communiste, en relation avec, pour aller vite, on l'appellera Moscou, hein, le Parti communiste et son dirigeant de l'époque le plus connu, qui s'appelait Marcel Cachin, qui était le directeur du journal L'Humanité. Et puis le jeune Maurice Thorez, le nouveau secrétaire général, lance le mot d'ordre de Front Populaire antifasciste, pour le pain, la paix et la liberté. C'est-à-dire un mot d'ordre qui n'est pas un mot d'ordre révolutionnaire, mais qui est un mot d'ordre de défense des libertés ouvrières et démocratiques.
Est-ce qu'on peut dire que ce Front Populaire rencontre un succès totalement inespéré en France? On sait à quel point il va avoir le vent en poupe jusqu'à remporter les élections législatives de 1936 et amener ce Front Populaire au pouvoir.
Et tout à fait. Alors il y avait une tradition, vous savez, qui était celle de l'Alliance des Gauches. Il y avait eu le cartel des Gauches en 1924. Il y avait eu, au moment de l'affaire Dreyfus, le Bloc des Gauches. Mais l'originalité de 1936, c'est qu'effectivement, il y a une alliance qui associe ce qu'on pourrait appeler les partis parlementaires un peu classiques et le Parti communiste et le mouvement ouvrier sur une thématique qui est celle de l'antifascisme. En 1935, il y a déjà les élections municipales qui sont une victoire pour cette alliance du Front Populaire. Et en 1936, effectivement, après qu'il y ait eu la signature d'un programme, d'une sorte de plateforme électorale commune, le Front Populaire emporte les élections. Ce qu'il faut dire, sans doute, c'est que le syndicalisme qui était divisé se réunifie. La CGT et la CGTU se rassemblent en 1936 et puis surtout, au lendemain des élections, il y a le plus grand mouvement de grève que la France ait connu, juste au lendemain des élections, alors qu'il n'y a pas de gouvernement. Il y a une sorte de vacance du pouvoir entre l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement et dans cet espace s'engouffre un monde ouvrier qui a subi la crise depuis plusieurs années et qui espère de la nouvelle majorité quelque chose.
Voilà. Justement, ce monde ouvrier, il n'est pas rassuré par la venue au pouvoir de Blum et du Front populaire à travers lui ?
En fait, ce mouvement ouvrier, il était plutôt assommé par la crise, il n'osait pas faire grève et la victoire électorale lui donne confiance. En réalité, la grève n'avait pas été programmée, mais elle se, généralise comme une traînée de poudre parce que le patronat a réprimé des mouvements de grève au lendemain du 1er mai et presque spontanément, la colère, les attentes se sont développées. En fait, les ouvriers, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent de travailler à moins, d'être payés davantage, d'avoir la garantie de l'emploi, des droits nouveaux. Et ça va déboucher sur les lois sociales, d'abord négociées entre le patronat et les syndicats, et puis voter ensuite à la demande du nouveau gouvernement qui se constitue au début du mois de juin.
Ce sont les lois des 11 et 12 juin 36 avec les fameux congés payés.
Voilà, les congés payés d'ailleurs sont venus alors même que les ouvriers ne l'espéraient pas. Ils n'imaginaient pas possible d'être payés sans travailler. Deux semaines de congés payés, les ouvriers, leur caractéristique, c'est qu'ils n'avaient pas de vacances. De toute leur vie, ils travaillaient et seulement depuis le début du siècle, ils avaient le dimanche était reconnu comme un jour de repos. Il y a la diminution de la durée du travail qui est réduite à 40 heures, d'autre part l'augmentation des salaires. Et dans ce mouvement, il y a les femmes, les jeunes, les étrangers aussi bien que les Français qui vont se trouver associés et même les syndicats vont négocier des augmentations plus fortes pour les femmes et les enfants. Songez que l'obligation scolaire n'était qu'à 12 ans. Enfin, il faut indiquer que c'est le moment où on va faire fonctionner ce qu'on appelle les conventions collectives, des contrats de travail qui seront négociés par branche. Donc vraiment un bouleversement social très fort.
Qui a des répercussions sur le Parti communiste et est-ce que notamment les adhésions sont plus nombreuses ?
Alors voilà, le Parti communiste, c'était un parti avec un nombre limité d'adhérents. En 1933-34, il avait un peu moins de 30 000 adhérents pour toute la France, vous voyez. Bien moins que le Parti socialiste ou le Parti radical, autre parti de la gauche. Et là, en quelques années, il va dépasser les 300 000 adhérents. Prenons une entreprise un peu emblématique de l'époque, par exemple les usines Renault-Billancourt ou les usines d'aviation, c'est par milliers que les ouvriers adhèrent. En fait, les ouvriers avaient peur d'adhérer au Parti communiste du fait de la répression. Et puis surtout, ils ne voyaient pas l'utilité du parti. Là, le parti apparaît comme un parti politique utile pour les défendre, pour promouvoir leurs idées. Et parallèlement, le syndicalisme réunifié devient un syndicalisme de masse. La CGT va dépasser les 4 millions d'adhérents en 1937. Donc, adhésion, politisation et en fait implication du monde ouvrier dans la vie sociale, alors que jusqu'alors le monde des travailleurs manuels était resté un peu dans la périphérie de la vie politique. Et le Parti communiste va apparaître comme le parti qui a permis cette socialisation, cette introduction du monde ouvrier dans la vie politique et sociale.
Pour terminer cet entretien, Serge Volikov, quel impact la guerre d'Espagne qui intervient en 1936 a-t-elle sur le Parti communiste français ?
Ça a des conséquences dans les deux sens. Le Parti communiste va apparaître comme la principale force politique aux côtés de l'Espagne républicaine et il va organiser l'engagement d'un certain nombre de volontaires dans le cadre des brigades internationales qui vont aller défendre Madrid, défendre les républicains espagnols. À cette occasion aussi, le Parti communiste essaye de nouer des liens avec une partie du monde chrétien, catholique, avec lesquels il s'engage dans une démarche antifasciste qu'on retrouvera pendant la guerre, selon les formules d'Aragon celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Et donc, le parti communiste s'engage dans la guerre d'Espagne, mais en retour, la défaite, finalement, des républicains espagnols va retentir sur le parti communiste. Dans un certain nombre d'endroits, ses dirigeants, ses cadres qui sont partis en Espagne ont été blessés, sont morts. D'autres vont revenir. Paradoxalement, souvent, ceux qui ont l'expérience de la guerre d'Espagne seront parmi les premiers résistants ou actifs dans la résistance, dans la clandestinité quelques années plus tard. En tout état de cause, si vous voulez, cette période a été extrêmement marquante dans l'histoire du PC en France parce que elle l'a ancré, si vous voulez, dans la nation. Et pour une part, l'engagement de l'époque du Front Populaire, on va le retrouver dans la résistance et à la libération de la France.
Jean Vigreux, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on voit les communistes français, le Parti communiste français, très solidaire des républicains espagnols, s'engager auprès d'eux. Est-ce qu'on peut considérer que ça marque déjà un tournant dans ce qui va advenir par la suite avec la Deuxième Guerre mondiale et la manière dont elle va toucher la France ?
D'abord, l'engagement du Parti communiste dans les brigades internationales pour recruter les brigadistes, pour combattre le fascisme, a été un premier tournant en 1934 par rapport à la période sectaire de classe contre classe, hein, de 1928-1934. Et puis, il va y avoir un deuxième tournant dans cet engagement certes antifasciste. Le Parti communiste, après l'effondrement du Front populaire au printemps 1938, se veut le garant de cette unité, le garant de ce combat antifasciste. Mais il est pris de vitesse par la diplomatie soviétique qui, en août 1939, signe le pacte germano-soviétique. Et de ce point de vue-là, même si au Parlement, hein, les députés votent les crédits de guerre, les militants, les cadres sont pris dans l'étau de la diplomatie soviétique. Ce qui fait qu'on va interdire le Parti communiste au début de l'automne 1939.
Interdire ?
Oui, la Troisième République décide d'interdire. On considère le PC comme un parti de l'étranger, puisqu'il représente l'international communiste, puisqu'il représente les intérêts de l'URSS, et donc qu'il participe de cette nouvelle ligne. Mais c'est pas si simple que ça, parce que il faut bien voir que même s'il vote les crédits de guerre, que si la plupart des mobilisés sont présents au front, etc., Torres est évacué, hein, d'aucuns diront qu'il a déserté, il est évacué vers Moscou, et petit à petit, la ligne dure est reprise, on dénonce une guerre impérialiste, on dénonce une guerre d'un autre âge et on en appelle au défaitisme révolutionnaire. Les députés, même communistes, qui étaient encore importants, puisque n'oublions pas qu'il avait eu 73 députés sous le Front populaire, vont tenter de réapparaître avec le groupe ouvrier et paysan français, avec à leur tête Flory Monbonte, en octobre 1939, hein, et défendent véritablement l'idée de paix, mais ils se font arrêter. Un procès des députés a lieu sous la Troisième République. Ils sont condamnés en avril 1940 à la déchéance, bien sûr, parlementaire, à la prison, et se retrouver dans un camp d'internement en Algérie, à Maison Carrée. Et tout ça est fait au début sous la Troisième République, mais qui n'accepte pas effectivement ce pacte germano-soviétique, qui va laisser aussi des traces au sein du PC, parce que les militants, nombreux, vont douter. Et puis d'autres essayent de suivre, tant bien que mal, les décisions prises à Moscou.
Jean Vigreux, de quelle manière les communistes français réagissent lorsque l'État français est déclaré par le maréchal Pétain ?
L'appel de Charles de Gaulle a lieu avant, hein, c'est le 18 juin 1940, hein, c'est-à-dire c'est avant même l'instauration de l'État français. L'État français, c'est le 10 juillet 1940 que ceux qu'il y a encore comme députés en France et ceux qu'il y a encore comme sénateurs qui peuvent être présents à Vichy votent les pleins pouvoirs constitutionnels au maréchal Pétain qui annule de fait la République et promeut l'État français, qui est un État d'entreprise dictatoriale, mis en œuvre pour un chef par un chef. Les communistes, dans un premier temps, sur l'appel du général de Gaulle, ne réagissent pas du tout, sont encore dans cette ligne puisqu'ils étaient en prison, ils étaient pourchassés, etc. Ce n'est qu'après l'instauration du régime de Vichy que on va essayer de changer la ligne. En revanche, comme l'État français prône une politique de collaboration, de lutte contre les francs-maçons, de lutte contre les communistes, de lutte contre les juifs, bah ça va aussi les amener à dénoncer non seulement l'occupant, mais le régime de Vichy. Pour autant, ce n'est pas tout de suite que la majorité du parti entre en résistance.
Est-ce qu'on a une idée de la proportion de communistes au sein des réseaux de résistance ?
Les proportions, on ne les a pas totalement. Ce qu'il faut bien regarder, c'est d'abord quand est-ce qu'on entre en résistance. Bien sûr, il y a déjà des communistes en résistance bien avant l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, le plan Barbarossa, puisque là, on sait bien que l'alliance était conjoncturelle entre Hitler et Staline. Et que lorsque Hitler décide d'attaquer l'Union soviétique de Staline en appelle toutes les forces à combattre pour la défense de la patrie en danger, hein, vraiment l'élan patriotique, pas vraiment internationaliste, plutôt défense de la patrie et qui renvoie à d'autres enjeux. Mais il y avait déjà des communistes de la résistance en France, puisque ce qui est l'ancêtre du Front National de la Résistance était déjà mis en place depuis le début de l'année 1941, qu'il y avait la MOI, la main-d'œuvre ouvrière immigrée, qui utilisait et mettait en place des tracts pour dénoncer l'occupant et pour dénoncer Vichy. Même chose du côté, par exemple, de Georges Guingouin, de Charles Tillon, qui lançait du travail anti-allemand, comme on disait à l'époque, hein, avec des tracts souvent rédigés en allemand pour s'adresser aux troupes allemandes.
Mais globalement, on sait que, enfin, en tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait, que les communistes sont quand même nombreux à rallier...
ils sont nombreux à rallier la résistance, mais c'est un processus lent et long, entre 1941 et 1944. J'ai évoqué d'abord ce travail spécifique, et puis après, bien sûr, c'est la politique de l'insurrection qui est prônée, et surtout des attentats contre l'occupant. Mais cette politique des attentats faite par les jeunes, hein, les bataillons de la jeunesse, vont amener aussi à des répressions très fortes. Et si l'on veut, il y a un double mouvement. En même temps, ils deviennent des héros, des martyrs, mais ils sont fusillés. Beaucoup de communistes sont fusillés pour l'exemple. Et puis surtout, ils vont mettre en œuvre plus tard, les francs-tireurs et partisans français, les FTPF, ils vont entrer dans la résistance de manière importante. Alors, au lendemain de la guerre, le parti se présente comme le parti des 75 000 fusillés. On sait aujourd'hui que ce chiffre est largement exagéré, mais il est entre 15 et 20 000. Et aucune autre formation politique, effectivement, n'a eu autant de fusillés. Mais ce qui représente aussi la place de la résistance dans la société française. Si, dans la population, on a 3% de véritables collaborationnistes, on a au maximum 4 à 6% de véritables résistants. Donc ça veut dire que la masse de la population était attentiste. Et il a fallu attendre aussi 1943 pour l'unification de cette résistance dans le cadre du Conseil national de la résistance, qui reconnaît l'autorité du général de Gaulle, mais qui reconnaît aussi la présence des communistes dans le mouvement de résistance.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme.
Comment est-ce qu'ils considèrent De Gaulle, les communistes, enfin les résistants communistes ?
On va dire, à partir de 1943, du moment qu'il y a eu l'unification de la résistance, tout le monde est derrière De Gaulle via, bien sûr, le travail qui a été fait par Jean Moulin. N'oublions pas que Jean Moulin a eu un rôle essentiel, et d'autant plus que déjà, il était sous le Front populaire, ceux qui voulaient, chez les radicaux, donner des armes à l'Espagne, donc qui était dans un combat déjà antifasciste, et qui était connu et reconnu des communistes. Et d'autre part, comme le Conseil national de la résistance prépare la libération, prépare les combats de la libération, avec le fameux programme du CNR, ou la charte du CNR, hein, ce qui va amener les jours heureux, comme on va le dire au moment de la libération, c'est-à-dire qui va restaurer le modèle républicain, restaurer la démocratie libérale, mais en l'enrichissant par la démocratie sociale, le PC va être le porteur de cet idéal de transformation.
À l'issue de cette guerre, est-ce que le Parti communiste pèse lourd sur l'échiquier politique français ? Est-ce qu'il a préparé l'après, en termes de responsabilité politique notamment ?
Alors, en termes de responsabilité politique, il y a trois éléments qu'il faut prendre en compte. D'abord, le Parti communiste bénéficie du prestige de l'armée rouge. N'oublions pas qu'au lendemain de la guerre, au moment de la libération et de 1945, lorsqu'on demandait à l'opinion publique française grâce à qui on a été libéré, c'était pas les Américains qui arrivaient en premier, mais c'était l'armée rouge. du fait de la bataille de Stalingrad, du tournant de la guerre de Stalingrad et du fait qu'ils soient arrivés à Berlin les premiers. Ce qui a changé notre représentation aujourd'hui, c'est les années de guerre froide. Mais au moment de la libération, c'est le prestige de l'armée rouge. Deuxième chose, le prestige, bien sûr, de la résistance armée communiste. Et l'EPC devient le premier parti de France au lendemain de la libération. Tant en voix, il est entre 25 et 28% sur toute la période des débuts de la 4e République. Il est présent au gouvernement de 1944 à 1947, donc il a un rôle important, il gagne des municipalités, il a plus de 500 000 adhérents, hein. On a pu exagérer, Maurice Thorez évoquait la carte du millionième adhérent du Parti communiste à la fête de l'humanité en 1945. Bon, c'était une exagération, mais il s'implante, il est présent. Et puis la troisième chose, oui, c'est que Thorez est revenu d'Union soviétique et entre au gouvernement et devient ministre communiste, et que les communistes vont avoir plusieurs ministères pendant le retour de la 4e République avec le général de Gaulle, puis sans le général de Gaulle.
Alors pour faire le lien avec l'entretien à suivre et pour terminer le nôtre, Jean Vigreux,
oui.
Est-ce que le Parti communiste français pâtit de ce qui se passe pendant la guerre froide ?
Alors totalement, parce que dans un premier temps, j'ai dit qu'il faisait partie de ces gouvernements et qu'il met en œuvre les grandes réformes, hein, sécurité sociale, nationalisation, charbonnage, statut de la fonction publique, etc., sur lesquels on a encore quelques héritages aujourd'hui. Mais au moment où la guerre froide se met en place, en 1947, eh bien, c'est une coupure totale. C'est-à-dire que pour avoir l'aide du plan Marshall, donc l'aide américaine, il ne faut plus de ministres communistes dans les gouvernements et on va voir les communistes renvoyés de tous les gouvernements. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'ouverture des archives aujourd'hui, on voit bien que l'EPC croyait que ça serait temporaire. Il avait pris goût à gérer, à être dans la réforme. En revanche, la naissance du Cominform par Staline et, je dirais, les démocraties populaires et l'outil de contrôle que le Parti communiste de l'Union soviétique a mis en place pour contrôler les partis, il se fait tenser, il se fait traiter d'opportuniste, de ministérialiste. Par conséquent, alors qu'il demeure le premier parti de France hein, sur toute cette période, eh bien, il entre en guerre froide. Et la guerre froide, on va dire qu'il y a une double injonction, à la fois défendre l'URSS et les démocraties populaires, mais en même temps, défendre la nation française. Et on va voir tout un courant patriotique de la part du PC. Annie Kriegel évoquait à une époque le national-thorezisme, mais c'était pour dénoncer la présence américaine en France. Et face au Coca-Cola, on prônait le fait de boire du bon vin français. Et donc, on est dans une culture de guerre froide, d'affrontement idéologique, culturel et parfois physique.
Roger Martelly, avec l'avènement de la Ve République en 1958, comment le Parti communiste français se positionne-t-il sur l'échiquier politique du pays ?
Au moment où se met en place le système de la Ve République, on peut dire que le Parti communiste se trouve devant des indicateurs qui lui permettent d'être globalement satisfait. Il est devenu un parti de masse, notamment à la Libération. Il l'est toujours. Il a 250 000 adhérents recensés officiellement. Hein. Ce sont des données internes, ce n'est pas des chiffres publics. Il s'appuie sur une galaxie impressionnante d'organisations de tout type qui partagent plus ou moins son univers mental, à commencer par la puissante CGT. Il attire entre un cinquième et un quart des électeurs. Dans le monde ouvrier, il est la force la plus influente de loin, et on peut ajouter, ce qui est évidemment tout aussi important, qu'il est encore, au début des années 60, la première force politique à gauche, et il renforce même cette position au début de la décennie 1960. Après le brouillage de la guerre froide, le système électoral majoritaire de la Ve République réhabilite les notions de droite et de gauche.
Et donc, et ça lui est favorable ?
Ça lui est favorable pour une raison toute simple, c'est que en 1958, il est le seul à avoir critiqué le régime gaulliste. La SFIO s'est ralliée au départ aux nouvelles institutions, donc dès le début, il a été critique à l'égard du nouveau régime. Ajoutons que à partir de 1962, il s'appuie sur une proposition politique assez réaliste, une proposition solide. Et il dit la chose suivante: pour parvenir à la majorité électorale, la gauche doit rassembler des couches sociales différentes, le monde ouvrier encore en expansion, mais aussi ces nouvelles couches moyennes salariées qui, elles aussi, sont en expansion. Et pour ça, dit le Parti communiste, il faut que la gauche se rassemble autour d'un programme commun à tous et qui ouvre à des réformes démocratiques, sociales et profondes.
Et elle parvient à mettre en place ce programme commun ?
Eh bien, entre 1962 et le début des années 1970, la SFIO ne veut pas de ce programme, se méfie du Parti communiste, considéré comme trop lié à l'Union soviétique. Mais au début des années 70, la situation change, le Parti socialiste en difficulté se rallie à François Mitterrand, et ce nouveau Parti socialiste mitterrandien, comme on finira par le désigner, finit par accepter la proposition du Parti communiste, et en juin 1972, les communistes et les socialistes signent un programme commun de gouvernement. Donc, le Parti communiste, peut-on dire, en 1972, ben, il est satisfait. Sauf que, il y a un mai qui va rapidement se manifester dans les années qui suivent.
Quel est ce mai ?
Il y a d'abord le fait que le milieu de la décennie 1970 interrompt la croissance continue du monde ouvrier qui était, j'allais dire, le milieu de prédilection du communisme français jusqu'à cette période-là. Le milieu de la décennie va aussi s'amorcer, c'est un phénomène d'ailleurs, les deux phénomènes sont concomitants, le recul industriel, et donc petit à petit affecte les bastions du Parti communiste et de la CGT. Et enfin, la crise urbaine qui se déclenche dans les années 70, notamment à la fin des années 70, frappe de plein fouet les territoires populaires et notamment les banlieues qui étaient le domaine réservé du PC. Ajoutons à cela un autre phénomène qu'on ne peut évidemment pas ignorer, c'est que malgré ces prises de distance dans les années 60, années 70, le Parti communiste reste lié au Parti communiste de l'Union soviétique.
Et ça joue en sa défaveur, ça, pour le coup ?
Ah, ça joue. Pendant tout un temps, j'allais dire, ça ne joue ni en sa défaveur, ni en sa faveur. Sauf que les années 70 voient le système soviétique entrer en crise. Le communisme soviétique se referme sur lui-même avec Léonid Brejnev et il enferme son pays et tout le système soviétique européen dans ce que les soviétiques appelleront eux-mêmes la stagnation. Et de ce fait, l'image, j'allais dire, de l'Union soviétique ne cesse de se dégrader dans l'opinion à partir des années 70. Le PC hésite à se démarquer trop fortement de l'Union soviétique, il ne veut pas rompre avec le Parti communiste, et de ce fait, évidemment, cette image défavorable de l'Union soviétique rejaillit sur le Parti communiste. Et enfin, je rajoute ce qu'on pourrait appeler la cerise sur le gâteau. Le Parti communiste pensait que, puisqu'il avait été le promoteur du programme commun, la signature de ce programme allait lui bénéficier. On ne sait pas ça qui se produit. C'est le Parti socialiste, qui pourtant avait longtemps refusé le programme, qui bénéficie manifestement de cette signature. Petit à petit, alors que l'écart entre le Parti communiste et le Parti socialiste au début de la décennie est immense, aux élections présidentielles de 1969, le Parti communiste fait plus de 21%, le Parti socialiste tombe à 5%. Or, peu à peu, le Parti socialiste grignote son retard. En 1978, il passe même devant le Parti communiste. Et en 1981, c'est le grand écart qui s'installe franchement au détriment du Parti communiste. François Mitterrand et le PS surclassent le PC à l'élection présidentielle de 1981 aux législatives. C'est le début d'un déclin qui va s'avérer continu.
Malgré tout, est-ce que Mitterrand est élu grâce au Parti communiste ?
Bien entendu, bien entendu. Dans cette période, l'union de la gauche fonctionne à fond. Elle fonctionne à fond d'ailleurs dans une période, je le signale, où l'abstention recule dans les années 70, et ce recul de l'abstention, notamment dans les milieux populaires, s'explique par la grande espérance de voir la gauche non seulement arriver au pouvoir, mais s'engager dans une transformation économique et sociale profonde, dans le sens des valeurs d'égalité, de partage, de justice sociale, qui sont le fond de la gauche depuis le 19e siècle. Malheureusement, à partir de 1981, cette gauche au pouvoir va s'engager dans des choix qui vont apparaître à un moment donné comme des choix en recul par rapport aux grandes espérances. À partir de ce moment-là, la politisation populaire se tasse, les catégories populaires désorientées vont chercher petit à petit d'autres solutions, d'autres choix politiques, quand ils ne s'abstiennent pas en masse, c'est une autre histoire. Et en tout cas, le Parti communiste, dans un premier temps, le Parti socialiste après lui, vont être les grands perdants de cette évolution. Mais là, nous en arrivons à la période contemporaine qui voit un Parti communiste qui se maintient, qui garde des bases territoriales non négligeables, en particulier sur le plan municipal, mais nationalement réduit, par exemple, aux élections législatives de 2017, au score de 2,7%, alors qu'il avait frôlé les 29% aux élections législatives de 1946.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bade, les lèvres s'épanouissaient.
Roger Martelly, quel est le poids des personnalités qui, dans les années 50, 60 et 70, se revendiquent communistes? Je pense à des intellectuels, je pense à des gens du spectacle, communistes même.
Le Parti communiste a comme caractéristique historique, surtout à partir de la Libération, d'être à la fois un parti ouvrier qui a attiré des intellectuels. Aragon, Picasso, Éluard, l'influence du PC dans le monde intellectuel a été très forte. Sauf que il faut reconnaître aussi que cette attirance par la grande lueur venue de l'Est, comme on disait dans les années 30, a été fortement tempérée par le fait que, malgré tout, le Parti communiste est resté un parti longtemps par la période stalinienne, ce qui a entraîné des relations avec les intellectuels extrêmement difficiles, qui fonctionnaient sur le registre à la fois de l'attirance et de la répulsion. Ces variables sont les périodes. Évidemment, la période, le cœur de la période de la guerre froide a fortement altéré les relations entre le Parti communiste et les intellectuels. Il est vrai que les années de programme commun sont des années qui voient à nouveau le Parti communiste connaître un certain rayonnement. Effectivement, il y a toujours évidemment Aragon qui est là, il y a des écrivains de sensibilités différentes qui à certains moments se rapprochent du PC, mais la grande période, hélas pour le Parti communiste, se trouve vite derrière lui, notamment à partir du moment où, dans les années 70, les révélations de plus en plus massives de ce qui se passe en Union soviétique ternissent considérablement l'image du Parti communiste, d'autant plus que parmi les victimes des répressions politiques en Union soviétique se trouvent de nombreux intellectuels. Évidemment, la figure la plus emblématique aura été celle de Solzhenitsyn au milieu des années 70.
Un très grand merci, Roger Martelly, de nous avoir aidé à découvrir l'histoire du Parti communiste français. Je rappelle que le livre que vous publiez chez Armand Collin est un livre à six mains. Vous l'avez coécrit avec Jean Vigreux et Serge Volikov. Ce livre s'intitule « Le Parti rouge, une histoire du PCF 1920-2020 ». Merci encore.
Merci à vous.